One small step for man, one giant leap for mankind.
La quadrature du cercle, l'infusion scientifique de Radio Méga.
Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. C'est la rentrée radiophonique pour la quadrature du cercle. Et pour démarrer cette nouvelle saison, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans cette 71e émission. La quadrature du cercle évolue encore cette année avec une nouvelle formule inaugurée par notre premier invité que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Mais je salue au préalable Bastien Hénard que l'on retrouve à la technique aujourd'hui pour un démarrage sur de bonnes vieilles bases solides. Bonjour Bastien, tout va bien? On démarre?
Oui, ça va bien.
C'est un retour aux sources, hein?
C'est le bonne vieille base solide qui me fait peur, ça me met la pression.
Non, tout va bien se passer. Une première nouvelle émission, donc, est d'une densité inouïe, obscure et pleine d'énergie, mystérieuse et qui sait, peut-être prometteuse. Voyons donc à qui nous avons affaire pour cela.
L'invité de la quadrature du cercle.
Gilles Henry.
Bonjour Gilles Henry ou Henri Gilles, vous vous mettez déjà la tête à l'envers? Est-ce que le palindrome vous excite? Enfin bref, qui est Gilles et qui est Henri?
Ah, c'est une histoire terrible parce que mon nom s'écrit avec un I comme le prénom.
Oui.
Et je me rappelle à l'école primaire, comme mon frère, ma sœur et tous mes cousins, on devait convaincre l'enseignante que ça s'écrivait bien avec un I et pas un Y. Tu t'es trompé, tu sais pas écrire ton nom. Non, madame, c'est Henri avec un I.
Et tout ça, ça donne des esprits embrouillés scientifiques. Mais est-ce que vous menez votre travail de chercheur, c'est un peu une plaisanterie, mais pourquoi pas, de cette façon, c'est-à-dire en tournant les choses dans tous les sens a priori, ou bien est-ce qu'on doit respecter certains codes, certaines procédures?
C'est un peu les deux.
C'est un peu les deux. Pour dire les choses autrement, est-ce que pour vous, il y a une démarche quasi artistique du chercheur?
Ah, certainement. D'abord parce que c'est assez gratuit finalement. Hein. Puisqu'on nous demande souvent à quoi servent nos recherches, on est un petit peu embêté pour répondre quand on fait de l'astrophysique.
Oui.
Et moi, je dis que c'est un genre d'art. La connaissance est une sorte d'art, c'est une création aussi intellectuelle. Et ça se rapproche beaucoup de l'art et c'est aussi nécessaire et indispensable à l'humanité que l'art.
Donc de temps en temps, vous partez un peu dans toutes les directions, comme une création artistique, mais en essayant d'être dans des rails pour vos collègues peut-être ou pour...
Ben, c'est-à-dire un mélange de choses standards. Il y a des procédures. Par exemple, quand on regarde un objet avec un instrument ou un satellite, ben, il y a des logiciels qui servent à ce qu'on appelle dépouiller les données. C'est pas très gentil, mais voilà, il faut les dépouiller. En fait, il faut en extraire la substantifique moelle. Et là, il faut être sérieux. Il faut soustraire le bruit. Il faut bien observer suivant des règles.
Mmh. On va détailler tout ça.
Voilà. Et puis après, il y a aussi des choses où on est devant des mystères. Et là, il faut laisser courir l'imagination.
Alors, depuis toujours, et plus longtemps sans doute encore, l'être humain regarde le ciel, s'en émerveille et s'en inquiète. Il y voit beaucoup de choses, il en interprète d'autres, il imagine aussi souvent, énormément, et puis il étudie, il extrapole, il cherche à comprendre, au-delà de l'observation, c'est ce que vous voulez nous dire. Parfois, ces humains rencontrent quelques difficultés et mystères. Il y a eu les apparitions soudaines de comètes, les étoiles filantes, et bien sûr les éclipses, parmi les premières et étranges observations. Aujourd'hui, on pourrait en rire, mais on voit tout de même des platistes qui continuent à se poser des questions loufoques sur la pseudo-rotondité de la Terre. Qui pourrait croire que les mystères, découvertes et interrogations vont s'arrêter là? Il est plutôt probable que cela ne cesse jamais et qu'on n'aura jamais les réponses à toutes nos questions légitimes d'humains perdus et isolés sur une pauvre petite planète quelque part dans le cosmos. Parce que nous n'en aurons pas le temps avant l'extinction de l'humanité? C'est une hypothèse de plus en plus plausible, au rythme où nous allons. Ou tout bêtement parce que nos cerveaux ne sont pas suffisamment développés pour saisir la structure de notre univers. Cette hypothèse perturbe beaucoup les philosophes et les scientifiques, mais nos corps sont limités en performance physique et on commence à avoir du mal à battre des records en athlétisme. Pourquoi donc nos cerveaux auraient-ils des capacités illimitées? Je vous vois froncer les sourcils. Hubert Reeves, le célèbre vulgarisateur québécois, prend cet exemple en parlant de notre animal domestique, très intelligent, qui ressent toutes nos émotions et sait où trouver sa nourriture, mais auquel on n'enseignera jamais la géométrie. L'autre jour, en randonnant dans le Vercors, j'ai croisé le regard fixe et creux d'une vache. Je me suis demandé ce qu'elle pouvait penser, si elle pensait, au même instant. Sait-elle ce que sont les espaces à deux, à trois dimensions, voire l'espace-temps? Cela ne nous choque pas que les vaches aient une capacité d'abstraction limitée. Et pourquoi pas nous? Prenons l'exemple d'un des sujets de recherche du moment, et surtout de notre invité astrophysicien. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, un trou noir est d'une densité telle que rien ne s'en échappe, même pas la lumière, et bien sûr tout tombe dedans à cause d'une gravitation colossale, par conséquent il ne peut rien avoir autour. Donc première conclusion, un trou noir est un trou sans bord. Poursuivons. Si un voyageur distrait tombe dans un trou noir, la gravitation augmente sans cesse et sa chute dure un temps infini car la distance à parcourir s'allonge avec l'accroissement progressif de la gravitation lors de cette chute. Donc deuxième conclusion, un trou noir est un trou sans fond. Cela amène la troisième conclusion, un trou noir n'est pas difficile à concevoir puisqu'il n'est limité par rien, ni fond ni bord, mais c'est troublant. Très troublant même, surtout que cette sensation d'ivresse et d'incompréhension est quasi illimitée. J'en remets une petite couche pour vous, juste pour mieux vous embarquer ensuite dans cette émission trouée et pleine d'énergie malgré tout. Imaginons un endroit de l'univers où il n'y a rien. Puisque rien n'a ni fond ni bord, on pourrait en déduire que là où il n'y a rien, il y a en fait des trous noirs. Erreur. Les seuls points communs entre le trou noir et rien sont qu'ils n'ont ni bord ni fond. Mais rien n'est pas un trou et un trou n'est pas rien. Ne partez pas, chers auditeurs et auditrices, notre invité va remettre de l'ordre dans mon cerveau et probablement dans les vôtres. N'est-ce pas, Gilles-Henri ? On continue.
Ouais, je vois que...
Voulez-vous tout de même mettre un peu de commentaires et un peu d'ordre après mon petit texte d'introduction ?
Alors c'est juste, le trou noir n'a pas de fond, mais c'est pas forcément très connu, mais il a une fin. Et c'est assez curieux, mais quand on tombe dans un trou noir, ce qui était la distance devient un temps, et ce qui était le temps devient une distance.
Alors, on va peut-être voir les choses une par une. Racontez-nous d'abord comment vous avez commencé à vous dire que l'étude du cosmos allait être le sujet de votre vie. Est-ce que c'était des circonstances... particulière ou pas ?
Oui, c'était un peu des circonstances un peu familiales. J'ai commencé la recherche par autre chose. J'ai été intéressé par comprendre comment les molécules réagissaient entre elles.
D'accord.
J'ai fait de la physique, ce qu'on appelle la physique moléculaire. Mais
dans le tout petit, pas encore l'infiniment petit, mais dans le très petit.
Des expériences microscopiques où c'était une très jolie expérience où pratiquement on manipulait les molécules une à une. Plutôt les ions chargés, et on était capable de les prendre individuellement, de les envoyer sur une autre molécule et de regarder ce que ça donnait. J'ai bien aimé, ça c'était pendant ma thèse. Et ma femme, à l'époque, faisait des études en astrophysique.
Ah.
Et par elle, j'ai rencontré des collègues et ils m'ont parlé de ces objets fascinants, les trous noirs, les choses. Voilà.
J'ai fait une
conversion thématique et je me suis intéressé à ça et finalement j'ai fini par travailler.
Alors vous êtes enseignant, chercheur et pas que ça, mais à l'université Grenoble-Alpes. Est-ce que c'est une université dynamique dans ce domaine en astrophysique ? Est-ce qu'il y a une place majeure dans cette université ?
Oui. C'est pas forcément les trous noirs qui sont le plus gros. Il y a un groupe qui est quand même assez actif, qui est une équipe dans un laboratoire qui est l'IPAG, qui est beaucoup plus gros, qui fait aussi beaucoup de formations d'étoiles et depuis pas mal d'années maintenant, beaucoup d'exoplanètes. Donc c'est un autre mystère, c'est les planètes de l'univers et la possible apparition de la vie. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Mais on est une équipe de 7-8 permanents qui travaillons plus autour des problèmes des trous noirs, qui ont aussi des liens avec la formation d'étoiles, parce que dans tous les cas, il y a de la matière qui va être attirée et sécrétée au centre, et donc il y a des processus assez similaires en fait, qui peuvent se passer autour des trous noirs ou autour des étoiles en formation.
Alors, on va parler plus spécifiquement des trous noirs dans la deuxième partie de cette émission. On va peut-être faire un petit panorama, on va dire, aujourd'hui. On va parler de la théorie du Big Bang. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient ce nom ? Parce que c'est quelque chose de drôle.
Oui, c'est drôle parce que ça a été utilisé, je crois que c'est Fred Hoyle, qui était un brillant astrophysicien, qui a beaucoup travaillé sur la physique des étoiles, mais qui ne croyait pas à cette hypothèse de Big Bang, d'univers qui avait un début. Il avait plutôt travaillé sur des modèles éternels, d'univers éternel. Et au cours d'une émission de radio comme celle-là, il a employé le mot Big Bang de façon péjorative, en disant « il y en a qui croient à un gros bang ». Un Big Bang, et ça a tellement plu que le journaliste s'en est emparé et que finalement c'est devenu un standard.
Ah, c'est les médias qui ont donné le nom. Ouais,
c'est ça.
Et alors, on en parle beaucoup aujourd'hui à cause d'une certaine fragilité peut-être de cette théorie. Quels seraient les points fragiles ?
Alors, il y a quelques petits problèmes. D'abord, c'est une théorie qui est basée sur la relativité générale et qui dit que quand on remonte le temps, on va tomber sur ce qu'on appelle une singularité. Et c'est effectivement la même chose pour les trous noirs. C'est-à-dire que quand on va, ce qu'on cherche le fond d'un trou noir, en fait, comme tu as dit, Marc, il n'y a pas de fond, mais il y a ce qu'on appelle une singularité. Et c'est un peu le même problème, c'est-à-dire on tombe sur des quantités qui deviennent infinies. Et ça, on n'aime quand même pas trop ça en physique, donc on se dit qu'il y a peut-être une théorie qui manque. On se le dit d'autant plus que l'autre grande théorie de la nature, c'est la mécanique quantique, et qu'on n'a pas trouvé de théorie qui unifie les deux. Alors, il y a des propositions, mais ça semble incompatible, alors que c'est une théorie qui marche très bien pour l'infiniment petit, et la réalité générale marche très bien pour l'infiniment grand. Le problème, c'est qu'au tout début de l'univers, on est à la fois dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, parce que tout l'univers va se concentrer en un point, donc on doit...
Enfin, ça, c'est une affirmation qui pourrait être aussi contestée.
C'est l'extrapolation, en tout cas, de nos modèles actuels. Et donc, on se dit qu'il faudrait une théorie qui fasse les deux en même temps. Et en fait, on n'a pas vraiment de bonne théorie avérée. Donc, il y a un problème théorique, c'est qu'on ne sait pas décrire ce moment initial.
Alors, quels sont, au contraire, les points solides, incontestés de cette théorie du Big Bang ?
Alors, ce qui est à peu près sûr, c'est que je dirais jusqu'à un milliardième de seconde après le Big Bang, on est à peu près sûr de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé. Quoique, c'est-à-dire que les mesures les plus récentes semblent montrer un peu des distorsions quand on applique différentes méthodes suivant qu'on regarde l'univers assez près ou très loin. Il n'a pas l'air d'avoir tout à fait les mêmes caractéristiques, en particulier la fameuse constante de Hubble. Elle a deux valeurs un peu différentes et ça semble un peu difficile à réconcilier. Il y a d'autres petits mystères qu'on n'a pas encore bien expliqués, donc peut-être qu'il y a une grosse surprise à attendre.
Ah.
Mais on ne sait pas, hein, chaque fois qu'il y a un petit mystère, parfois on cite souvent...
Voilà, la science est faite de ça, de surprises. On a connu il y a 5 siècles.
On aime bien citer le mot de Lord Kelvin à la fin du 19e siècle en disant « Bon, la physique a à peu près tout expliqué, à part... » l'expérience de Morley-Michelson et le rayonnement du corps noir. Il avait une très bonne vision de ce qui ne marchait pas, puisque l'expérience de Morley-Michelson, c'est ce qui a donné la relativité, et le rayonnement du corps noir, c'est ce qui a donné la mécanique quantique, qui ont révolutionné la physique, qui n'a plus rien à voir avec la physique de l'époque de Kelvin.
Mais qu'on a un peu de mal à tout faire cohabiter aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des expériences, des observations qui contredisent le Big Bang, ou est-ce qu'on reste dans les études théoriques ?
Non, on ne peut pas dire qu'elles contredisent le Big Bang. Comme j'ai dit, il y a des petites différences de résultats, de distorsions qui inquiètent un peu les cosmologistes, mais ça remet pas. On se dit peut-être qu'on a loupé un petit phénomène dont on a mal tenu compte.
Le diable est dans les détails parfois.
Mais peut-être, voilà, une surprise n'est pas expliquée. Mais globalement, le modèle du Big Bang explique relativement bien, quoi qu'il y a quand même des problèmes, c'est-à-dire que pour le faire marcher, il faut mettre deux ingrédients dont on n'a aucune idée de ce que c'est-à-dire une matière noire qui serait complètement invisible, mais qui agirait gravitationnellement. Ça fait assez longtemps qu'on se dit qu'il doit y avoir la matière noire. Et plus récemment, enfin ça va commencer à faire 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, une énergie noire du vide, c'est-à-dire que même le vide sans matière aurait une énergie.
Est-ce que tout
ça, c'est encore plus mystérieux.
C'est encore plus mystérieux. Donc matière noire, énergie noire, trou noir, est-ce que ce qualificatif veut nous faire comprendre que vous ne savez pas grand-chose ?
Ça veut juste dire qu'on ne peut pas recevoir de lumière de ces objets. C'est le point commun, c'est-à-dire que ni l'énergie noire, ni la matière noire, ni les trous noirs n'émettent de lumière. Et donc ils sont noirs quand on les regarde. Mais c'est quand même assez différent, ils sont quand même de nature différente.
Quelles sont les autres théories que le Big Bang qui pourrait prendre la relève ?
Alors, il y a des théories qui essayent d'inventer cette gravitation quantique, qui n'existe pas en tant que théorie bien consensuelle, mais il y a des propositions de différentes approches théoriques qui pourraient peut-être déboucher sur une vraie théorie, mais on n'en est pas encore là, et qui essayent de voir ce que ces nouvelles théories pourraient apporter. Alors, souvent, le Big Bang serait remplacé par une espèce de rebond où l'univers viendrait d'un état antérieur mal défini, qui se concentrerait en une taille extrêmement petite, mais pas infinie, et qui rebondirait ensuite dans un autre univers. Il y a aussi des théories comme quoi les trous noirs eux-mêmes pourraient donner naissance à d'autres univers. C'est-à-dire que notre univers aurait pu naître d'un trou noir dans un univers beaucoup plus vaste, mais auquel on n'a pas accès.
Est-ce qu'on jette un œil, est-ce que la communauté scientifique jette un œil un petit peu, dirais-je... moins narquois sur ces nouvelles théories que ce qui a pu être fait à l'époque avec le Big Bang, ou est-ce qu'on a tiré les leçons de l'évolution des sciences ou pas, à votre avis?
Je pense qu'on est devenu beaucoup plus tolérant, c'est un peu comme dans la société, à différentes formes de physique, en fait. La physique non genrée.
Ah, oui, d'accord.
Mais voilà, on s'amuse
on
à...
On va rester là.
les théoriciens, maintenant, ont beaucoup de liberté dans leur imagination et conçoivent plein de théories possibles de l'univers, dont probablement la grande majorité est complètement fausse. Mais c'est pas grave, il faut chercher pour espérer trouver.
Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on ne connaît qu'une faible partie de l'univers? Comment est-ce qu'on sait la part qui manque?
C'est justement dans ce contenu énergétique, parce que sur toute l'énergie, le contenu de l'énergie de l'univers, les mesures actuelles semblent montrer qu'il y a 70%, c'est de l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. 25%, c'est de la matière noire, on ne sait pas non plus ce que c'est. Donc ça fait 95%.
On sait pas ce que c'est.
De la forme d'énergie de l'univers, on ne sait pas ce que c'est.
Et mais comment on peut savoir 5%. Qu'il manque 95% quand on ne sait pas ce que c'est?
Parce que...
On sait ce qu'on voit,
oui,
mais on ne sait pas si ce qu'on voit c'est 5% ou 10% ou la moitié ou...
Si, quand même, si. Alors,
il faut faire une hypothèse pour ça.
Oui, mais il y a des contraintes qui sont justement... qui viennent de l'analyse de la proportion d'atomes qui ont été créés au moment du Big Bang. Qui n'a pas créé grand-chose, il a créé de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium, et c'est à peu près tout, et du deutérium. Donc, quatre types d'atomes. Mais la proportion de ces différents éléments est liée à la quantité de matière qu'il y a. Et ça limite, on sait qu'il n'y a pas plus de 5% de l'énergie de l'univers qui peut être de la matière ordinaire.
Après tout ce que nous avez dit en cette première partie, j'adore quand vous affirmez « on sait que ». On n'est pas enclin à vous croire spontanément.
Non, parce que ça, c'est un temps qui était justement... assez lointain par rapport au Big Bang, et là où on est à peu près sûr de la physique. C'est en gros la physique nucléaire qu'on utilise dans nos centrales nucléaires, et elle est relativement bien maîtrisée. Donc là, il y a peu d'incertitudes là-dessus.
Bon. Gilles Henry, nous allons faire une première pause musicale qui va nous emmener rêver d'autres univers, puisque vous avez dit qu'il y avait peut-être des connexions via les trous noirs, avec la musique onirique et magnifique de Hadouk Trio.
La quadrature du cercle, l'infusion scientifique de Radio-Méga.
Vous écoutez toujours donc La quadrature du cercle, et c'est le moment quantique de l'émission avec Luc Charéron et le fameux chat de Schrödinger qui est tout noir et tout blanc, évidemment.
La capsule de Schrödinger, dégoupillée par Luc Charéron.
Appelons un chat, qu'il soit là ou pas. Un trou, c'est un creux, un vide, une absence, un déficit, c'est quelque chose dans lequel on tombe. Et il y a le trou noir. Ça, c'est mystérieux. Le trou noir, ça n'est pas un vide, c'est un plein. Eh oui, un plein dans lequel tout tombe. Tout et même la lumière. Et elle n'en ressort jamais. Elle est absorbée. C'est plein de lumière et c'est trou noir. Bon, mais ça n'absorbe pas que ça. Hein. Les planètes, les étoiles, les astronautes imprudents, tout y passe. Et on ne sait rien de ce qui s'y passe. Et non, nous sommes remplis d'ignorance tandis que le trou noir est plein d'inconnus. C'est tout à fait singulier. C'est un lopin de singularité dans le cosmos. Oui, un lopin de singularité. En fait, de trous, de creux, de vides, on a quelque chose de plein comme un œuf. Qui dit œuf dit poule et pose la question des origines. Vous imaginez une poule qui pond un trou noir ? Ça doit pas être coton. Faut pas avoir les coquilles poreuses. La poule se retourne, cherche son œuf, et comme c'est noir et qu'on n'en voit rien, eh bien, pas moyen. C'est sournois, un trou noir. On voudrait aller voir, mais on n'en reviendrait pas, au sens propre du terme. Hein. On n'en sortirait pas, donc on est comme une poule qui a trouvé un couteau et qui cherche son œuf.
Ouais.
Alors si vous aussi, vous vous sentez un peu perdu dans le noir au fond du trou, dites-vous bien que vous n'êtes probablement pas le ou la seule et que cela n'empêche à aucun moment d'en discuter.
Gilles Henry, une réaction quantique à cette capsule de Luc Charéron qui nous amène d'ailleurs tout droit à votre sujet actuel de recherche, les trous noirs.
Ah oui, j'aime beaucoup. Ça, voilà, c'est effectivement
ça fait avancer la science.
Je sais pas, mais oui, peut-être, parce que la poésie, ça peut faire aussi avancer la science, mais en tout cas, c'est très...
très imagé.
Très imagé, voilà, ça excite l'imagination.
Est-ce que vous pourriez nous faire une description rapide des principaux objets de l'univers, en commençant par le plus proche, mais rapide, et puis surtout les mots qu'on entend, mais dont on ne sait pas trop de quoi il s'agit, les quasars, les pulsars, les trous noirs, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est des choses différentes. Si je voulais comparer l'univers, c'est un peu comme un pays qui a des villes. Donc on dirait que les villes, c'est un peu des galaxies. Chaque maison, ça serait une étoile. Donc chaque maison est éclairée, voilà. Donc les étoiles produisent la lumière. Et puis autour de la maison, il y a peut-être il y a la famille, il y a les enfants. Voilà. Donc il y a les planètes qui tournent autour de chaque étoile. Donc c'est un peu hiérarchisé comme ça, voilà, avec les galaxies, les étoiles, les planètes. La planète, la Terre est une planète, notre étoile la plus proche est le Soleil, et la galaxie dans laquelle on vit, c'est la Voie lactée. Et puis il y a des centaines de milliards de galaxies, et chaque galaxie comprend à peu près des centaines de milliards d'étoiles. Et puis ces étoiles, elles ont une vie, donc elles naissent, elles vivent un certain temps, et elles meurent.
Le Soleil y compris ?
Le Soleil y compris. Le Soleil est une étoile dans la force de l'âge, il a à peu près la moitié de sa vie, donc une petite quarantaine.
Là, il est en pleine forme.
En pleine forme encore, il a à peu près 5 milliards d'années. Et on estime qu'il lui reste à peu près 5 milliards d'années à vivre. Bon. Parce que contrairement aux humains, c'est assez prédictif, on sait quand ils vont mourir.
On sait quand ça va se terminer, d'accord.
Et les plus grosses étoiles, alors ça ne va pas être le cas du Soleil, quand le Soleil va terminer sa vie, il va s'éteindre assez gentiment. Enfin, d'abord, il va devenir très gros, il va presque avaler la Terre, il va remplir tout le ciel. Ça sera une immense étoile rouge, qu'on appellera une géante rouge, et il va lécher l'orbite de la Terre, peut-être la brûler. À la limite, on ne sait pas exactement, mais soit on sera un petit peu avalé ou très très, mais en gros,
on sera brûlé bien avant.
Bon, enfin, la vie aura disparu complètement, vu que le Soleil va tout chauffer à plusieurs milliers de degrés. Donc on sera un astre mort. Et après, il va se ratatiner, il va redevenir ce qu'on appelle une naine blanche, qui est à peu près la taille de la Terre. Donc quand même très concentré, ça fait des millions de fois plus dense que sa densité actuelle, qui est proche de celle de l'eau. Alors les plus grosses étoiles que le Soleil, autour de 5 fois la masse du Soleil, elles vont se terminer de manière beaucoup plus catastrophique, et là elles vont faire une vraie explosion, et leur cœur est tellement lourd qu'il va être beaucoup plus concentré, et il va donner ce qu'on appelle une étoile à neutrons, qui elle ne fait qu'une quinzaine de kilomètres. Donc c'est même pas le massif du Vercors, mais deux ou trois fois la masse du Soleil.
C'est le diamètre d'une ville.
Dans une petite montagne, quoi. Donc là, c'est des conditions absolument dantesques avec des densités de milliards de tonnes par centimètre cube, des champs.
Vous nous racontez ça comme si vous y étiez.
Je l'enseigne, donc j'y suis habitué. Et alors, ces étoiles.
Pour revenir à ce qu'on disait à la première partie, vous êtes sûr de ce que vous dites ?
Oui, parce que là, on les observe et ça correspond bien à la théorie, donc là, on est assez sûr. Et ces étoiles se mettent à tourner très, très, très vite, mais des centaines de fois par seconde. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne les verrait même pas tourner parce que notre persistance rétinienne, ça tourne tellement vite qu'on ne verra même pas le mouvement de rotation. Et elles émettent du rayonnement, et comme un phare, ce rayonnement va nous frapper en pleine figure à chaque tour, et donc ça va faire une série de pulses radio, donc ça donne ce qu'on appelle un pulsar.
C'est pulsating radio source, l'abréviation.
Quasar, c'est autre chose. Le quasar, on pense que c'est des trous noirs géants qui se trouvent, et maintenant on est sûr qu'ils se trouvent au centre de chaque galaxie, y compris la nôtre. Chacune de ces galaxies, en plus de ces centaines de milliards d'étoiles, arbore un monstre, un trou noir.
C'est un trou noir, c'est pas un monstre pour vous, ça commence à être des
objets. C'est quand même un monstre.
Mais on peut faire
pire. Parce que lui, il est plusieurs millions de fois plus lourd qu'une étoile, alors que les pulsars, c'est juste quelques masses solaires. Hein. Mm-hmm. Là, c'est pas du tout une étoile, c'est entre plusieurs millions et plusieurs milliards de fois la masse d'une étoile. Et on ne sait pas, probablement ils se sont formés tout au début, juste après le Big Bang, et ils ont avalé le gaz qu'il y avait autour, ils ont grossi, en créant aussi une galaxie autour d'eux.
Mais en n'étant pas au départ un trou noir ou...
On ne sait pas très bien, l'effondrement qu'a donné le trou noir a dû se produire assez vite, peut-être qu'il n'y avait même pas encore de galaxie à l'époque, et ça a peut-être été un germe qui a créer la formation d'une galaxie.
Donc on ne sait pas comment sont apparus, sans jeu de mots, les trous noirs. Est-ce que c'est réellement un objet ou est-ce que c'est une construction mathématique ?
C'est le résultat de l'effondrement de la matière. Après, appeler ça un objet, oui, on peut dire que c'est un objet au sens qu'il y a certaines caractéristiques. On sait ce qu'il y a autour et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire on ne sait pas ce que devient la matière qui s'effondre.
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous arrange mathématiquement, qui soit présent là ?
On aimerait bien en savoir plus, hein, mais le problème, c'est qu'un peu comme le Big Bang, on démontre qu'on ne pourra jamais avoir l'information de ce qu'il y a en dessous de ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Donc le trou noir s'enveloppe en quelque sorte d'une surface immatérielle, hein, une surface virtuelle, et tout ce qui est à l'intérieur de cette surface est caché de notre vue. Ce qui est un peu embêtant, mais on essaie d'imaginer.
Comment est-ce qu'on détecte un trou noir puisqu'on ne peut pas l'observer ?
Donc, c'est une très bonne question. En fait, on ne détecte pas le trou noir lui-même.
Mmh. On détecte les astrophysiciens qui eux-mêmes...
les astrophysiciens, alors il ne doit pas y en avoir beaucoup, j'espère pour eux, mais simplement, quand ils passent dans la région où il est de la galaxie, quand il y a de la matière qui passe à proximité, elle peut être aspirée par le trou noir. Et donc, elle va se mettre à tomber très vite, et en tombant très vite, elle va s'échauffer, elle va pousser en gros un dernier cri, c'est imagé, émettre beaucoup de rayonnement.
Non, je ne veux pas y aller.
on lui laisse pas le choix. Et après, elle s'effondrera, elle disparaîtra dans le trou noir. Et ce qu'on détecte, c'est le dernier cri avant qu'elle s'effondre. Et là, ça peut émettre énormément de rayonnement. Donc, paradoxalement, ils peuvent être extrêmement brillants. Enfin, l'environnement du trou noir peut être extrêmement brillant.
Quand on dit les trous noirs émettent, parce que j'ai lu ça y compris dans votre texte, les trous noirs émettent des rayons X et gamma.
Oui.
Et pourtant, la lumière, nature électromagnétique également, ne s'en échappe pas. Donc, ce n'est pas le trou noir qui émet ça.
C'est une figure de style, c'est la matière.
Ah oui, mais alors bon, voilà.
C'est la matière. Embrouillez... Mais le trou noir peut être compris aussi comme... le trou noir accompagné, on va dire, habillé. Et en fait, ces habits qui...
Oui, parce que c'est cet objet qui n'est pas un objet, est-ce qu'il a une limite géométrique ?
Il a une limite qui est son horizon, c'est-à-dire qui limite ce qu'on peut voir. Et donc, évidemment, le rayonnement qu'on détecte est en dehors de l'horizon, sinon on ne le verrait pas. Il est émis par la matière. Alors, il y a soit la matière qui tombe, et assez curieusement, et on a un peu de mal à comprendre comment ça se passe, on voit aussi de la matière qui s'éjecte de ces objets, des jets. Un peu comme quand vous ouvrez une cocotte minute, vous voyez un jet de vapeur. Là.
C'est avant que la matière ne sombre dans le trou noir.
Probablement, c'est assez compliqué, mais c'est en même temps, la matière, elle tombe en spiralant, il y a un champ magnétique qui se développe, et en fait, une partie de la matière, au lieu de tomber dans le trou noir, elle va être guidée par le champ magnétique, et finalement, elle sera expulsée le long de l'axe de rotation. Et donc, on a à la fois ce qu'on appelle de l'accrétion et de l'éjection. Et ça, c'est vraiment les modèles sur lesquels on a beaucoup travaillé dans notre équipe. C'est-à-dire comment comprendre comment cette accrétion et cette éjection étaient couplées et s'interfécondaient en quelque sorte l'une l'autre. Parce que c'est l'énergie dégagée par l'accrétion qui va propulser le jet. Et donc, faut expliquer à la fois que la matière s'accrète et s'éjecte.
Alors, vous dites que oui, aussi on peut avoir des ondes qui vont être émises plus vite que la lumière. Alors, on connaît Lucky Luke, mais à part alors c'est possible, c'est pas possible.
C'est pas possible. c'est une illusion.
Alors, quand on lit le CV d'un astrophysicien qui vous envoie un courrier pour préparer une émission, il fait des figures de style.
Bon, j'ai dû dire qu'ils paraissent aller plus vite que la lumière, si j'ai été bien précis. En fait, c'est une illusion d'optique, mais la matière qui s'éjecte apparemment va à des vitesses très proches de celles de la lumière. Et là, on a un effet d'illusion d'optique, c'est que si la matière se dirige presque vers nous, avec un très petit angle par rapport à la ligne de visée, elle peut apparaître comme allant plus vite que la lumière. Mais en fait, elle va juste en dessous, mais il faut qu'elle ait quand même très proche de la vitesse de la lumière.
On ne vous aura pas comme ça. Mais cette limite, par contre, celle-là, pour l'instant, rien ne la met en défaut.
Non,
et
alors là,
je vous vois hausser les épaules, peut-être.
On a eu une célèbre fausse alerte avec l'histoire des neutrinos superluminiques. C'est quand même très compliqué d'imaginer des particules qui vont plus vite que la lumière, parce que on montre que ça voudrait dire aussi qu'elles pourraient remonter le temps. Et si elles remontent le temps, on sait que ça pose des tas de paradoxes qu'on a abondamment étudiés en science-fiction, mais si on se met à remonter le temps à tuer son grand-père, ça devient un peu compliqué de savoir ce qui se passe. Donc, si on en découvrait, ça poserait quand même des redoutables paradoxes, et jusqu'ici, on n'en a pas découvert.
Alors, est-ce que c'est trop noir ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça peut être des zones de passage vers d'autres univers, puisque c'est des théories qu'on évoque beaucoup.
Ça fait partie de la spéculation, effectivement, cette singularité. C'est un peu comme le Big Bang, je vous ai dit. S'il y a de la gravitation quantique, c'est peut-être pas un Big Bang, mais c'est peut-être une sorte d'endroit très petit. Et c'est pareil, le centre du trou noir pourrait être une sorte de tunnel extrêmement fin et qui irait où ? Dans certains cas, dans certaines théories, pourrait brancher sur un autre univers ou alors brancher sur une autre partie de notre univers et permettrait de voyager peut-être apparemment plus vite que la lumière.
On va dire à nos enseignants de l'école élémentaire de bien insister sur le conditionnel.
ça serait un peu risqué de tenter l'expérience et je ne pense pas que je m'y lancerais malgré tout l'amour que j'ai pour la science.
Gilles Henry, on va faire une seconde pause musicale pour respirer un peu et on part rêver à nouveau en douceur avec Sweet Dreams de Rhythmic, mais dans une version de Marilyn Manson.
Marilyn Manson, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them. Some of them want to abuse you, and some of them want to be a yellow. Yeah. Oh, moving on. Keep your head up, moving on. I'm moving on. Yeah. inside. I'm gonna know what's inside. Sweet dreams are made of these, and who am I to disagree?
Marilyn Manson.
Il y a une relance.
Vous écoutez La Quadrature du Cercle, l'infusion scientifique de Radio Méga. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les émissions précédentes sur le site www.radio-mega.com ou sur le SoundCloud de la radio. Vous pouvez également nous écrire et nous raconter ce qui vous passe de scientifique par la tête à l'adresse laquadratureducercle@radio-mega.com.
Alors, le ciel et ses mystères sont évidemment un des sujets de prédilection pour les philosophes. Et c'est Olivier Benoît qui s'y colle aujourd'hui à l'écriture et mise en voix par Ingrid Lebrasseur. Et on attend les lunettes de Spinoza à la technique, monsieur Hénard. C'est parti!
Les lunettes de Spinoza portées par Olivier Benoît. Dans son Thé et Tête, Platon rapporte l'épisode de la jeune servante Thrace riant de voir Thalès tomber dans un trou alors qu'il marchait en regardant le ciel. Le pauvre Thalès, les yeux inutilement dirigés vers les astres, ne saurait marcher sans tomber. La doxa ne donne pas de crédit au monde immanent et environnant et fustige la recherche fondamentale parce qu'elle serait abstraite, incompréhensible et inutile. Seul compterait ce qui est prêt. Une première question se pose alors. Qui voulons-nous être ? Voulons-nous être la jeune servante innocente, sans doute ignorante, ou voulons-nous être Thalès, distrait en apparence, mais conscient que nous participons à un tout qui nous englobe ? Une seconde question se pose. Ce qui est proche de nous n'est-il pas ce que nous connaissons le moins ? Ne faut-il pas chercher à comprendre le lointain pour mieux expliquer ce qui est proche ? Ces questionnements sont devenus les convictions qui fondèrent l'esprit scientifique et philosophique des premiers physiologues et astronomes qu'étaient les présocratiques. Nul doute que les astrophysiciens perpétuent cette tradition et cette conviction. Comme l'avait saisi Pascal, l'univers, en tant qu'ensemble de tout ce qui existe, nous comprend par l'espace et il nous détermine. Notre petit monde n'est que le résultat de l'activité cosmique qui se déroule sur le temps long. Mais l'homme a cette capacité et peut-être le devoir, par la pensée et par son étonnement, de dépasser son ignorance et de comprendre, par étapes, l'univers et les phénomènes cosmiques qui le composent. Les trous noirs sont de ces phénomènes cosmiques mystérieux. Mystérieux parce qu'encore mal ou partiellement expliqués. Mystérieux parce que fascinants. Fascinant parce qu'ils contrarient les lois élémentaires de la physique classique, mais aussi parce qu'ils sont un phénomène paradoxal qui, sur un plan philosophique, donne à repenser le phénomène de la mort. Au lieu de disparaître, de s'éteindre, la mort d'une étoile est un effondrement, c'est-à-dire un phénomène catastrophique. Mais cet effondrement, au lieu d'être un repli et une disparition, est au contraire un phénomène d'extension par l'aspiration de la matière située dans le champ de l'étoile. De sorte que l'étoile, morte ou mourante, produit davantage d'énergie que lorsqu'elle était vivante, devient autrement plus puissante que lorsqu'elle était, comme si elle devenait plus vivante ou autrement vivante. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, disait Lavoisier. Ajoutons, on ne meurt pas, on change d'état. Le monde des trous noirs est intimement lié à celui de l'énergie. La jeune servante Thrace, que nous sommes, consomme de l'énergie et s'inquiète de la transition énergétique.
La jeune servante Trace bâtit des scénarios catastrophistes remplis de certitudes. Avec les chercheurs, devenons Thalès. Au lieu des incantations péremptoires, soyons humbles et lucides. Et au lieu de proférer, employons-nous à élucider les phénomènes de notre petit monde à l'échelle du cosmos.
Fini.
C'est fini, mais c'est dense, hein, comme un trou noir. Sur les ondes de Radio Méga, on va poursuivre cette émission avec notre invité Gilles Henry, qui a peut-être une réaction à cette chronique.
Ah ben, celle-là aussi, j'aime beaucoup, parce que ça rejoint en plus des préoccupations personnelles, puisque quand je ne pense pas au trou noir, je pose des questions sur l'avenir de l'humanité et la civilisation.
Le lien est fait avec la troisième partie, absolument. Mais cette vision très positive de nouvelle vie au trou noir.
Oui, les trous noirs sont paradoxalement des objets vivants. Et, alors, tout seuls, ils ne sont pas très intéressants quand même, il faut dire ce qui est. Mais dès qu'ils sont associés à quelque chose d'autre, donc soit ces trous noirs géants au centre des galaxies qui avalent la matière entre les étoiles, ce qu'on appelle la matière interstellaire, soit ce qui peut se passer aussi, des trous noirs qui... Donc je vous ai parlé des pulsars, mais les étoiles encore plus grosses vont effectivement donner des trous noirs. Et lorsque les étoiles sont en couple, ce qui arrive assez souvent, mm-hmm. il se peut qu'une étoile ait terminé sa vie, et les couples étant fidèles, entre les couples d'étoiles, l'autre étoile va fidèlement accompagner son compagnon mort, le trou noir, mais si elle est un peu trop proche, eh bien, le compagnon va aspirer la matière de l'étoile restée vivante. Et en fait, on va avoir des objets, encore une fois, extrêmement lumineux parce que l'étoile vivante va se vider, en quelque sorte, dans ce trou noir. Et cette aspiration va produire, comme j'ai dit, énormément d'énergie et ça fait des objets très, très brillants.
Alors, c'est un mot que... Alors, on va laisser toutes vos explications métaphoriques, là, sur le couple, etc. Mais vous utilisez le mot énergie. Alors, c'est quoi l'énergie ?
Ah, ça, c'est très compliqué à... C'est très compliqué à définir, mais on pourrait définir par une pirouette, c'est ce qui doit se conserver.
Ouais.
C'est-à-dire que.
Ça ne nous avance pas tellement.
Ben, en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment.
Ça encore, c'est un principe qu'on n'a pas mis en défaut, mais pourquoi pas un jour ?
Pourquoi pas un jour ?
Y compris dans les couloirs.
Mais ça a toujours marché, c'est-à-dire que chaque fois qu'on voit des transformations, on s'aperçoit que les choses changent. Par exemple, vous lâchez une pomme, je reprends l'expérience de Newton, qu'il n'a sûrement pas faite, mais il a réfléchi dessus. Elle va tomber en accélérant, et donc on a l'impression qu'elle va augmenter de l'énergie. Mais on peut lui associer aussi une énergie potentielle qu'elle a au départ, et on se débrouille pour que la somme de son énergie potentielle plus cinétique reste constante. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, on peut associer différentes formes d'énergie de façon que la somme de toutes ces formes reste constante.
Bon, on va se contenter de cette définition de l'énergie. Et puis là, puisque vous citez Newton, comment est-ce que vous faites le lien entre votre travail et votre recherche en tant qu'astrophysicien et celui d'énergéticien, si on peut vous qualifier comme ça ?
Alors, je ne sais pas s'il faut faire un lien direct. On a spéculé sur le fait que le trou noir pourrait être une source... En théorie, si on capture un trou noir, ce serait une source d'énergie pratiquement illimitée. Mmh. En fait, il suffirait de jeter des petits trucs dedans, tous nos déchets et tout. Et d'abord, on s'en débarrasserait, une fois pour toutes. Et en plus, ils produiraient encore beaucoup plus d'énergie que ce qu'ils ont produit de leur vie, pendant leur vie. Parce qu'en fait, l'énergie libérée par la matière qui tombe dans un trou noir est absolument phénoménale. C'est une fraction non négligeable de ce qu'on appelle son énergie de masse. Donc ça revient un peu à désintégrer la matière complètement en énergie. Non, malheureusement, ça c'est assez utopique parce que le trou noir le plus proche, il est à quelques milliers d'années-lumière.
Oui,
on n'a aucune idée de comment on pourrait aller le chercher.
Alors, restant plus très très proche, est-ce qu'il y a, puisqu'on va parler d'énergie maintenant et de climat, est-ce qu'il y a un réel danger climatique, selon vous, à court, moyen, long terme ?
C'est compliqué à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on appelle un danger, en fait ? Il y a des problèmes, mais... Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que certains sur cette question. J'ai beaucoup réfléchi et je pense, alors c'est assez paradoxal, mais c'est un peu une question en fait de savoir si on aura assez de réserves fossiles pour faire un réchauffement vraiment catastrophique. Moi, c'est une question que je me pose et j'ai l'impression qu'en fait, on n'en aura pas assez pour faire une vraie catastrophe. Mais en revanche, je ne sais pas si on sera capable de faire face à la disparition des fossiles. Mmh. Et donc, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de notre civilisation de manière générale, parce qu'entre le climat et le manque de fossiles...
Mais est-ce que c'est la transition énergétique qui est à craindre, ou est-ce que c'est le changement ?
Si la transition énergétique était possible de façon... comme on dit, smooth, de façon douce, tranquille, voilà, oui, tranquille, et nous permettait de garder l'essentiel des acquis de la civilisation industrielle, ça serait parfait. Je crains que la réalité ne soit pas si rose que ça et qu'on doive faire des gros sacrifices.
Parce que lors de la précédente ère glaciaire, il y a 11 000 ans, la température était de 5 à 6 degrés plus basse. C'est à peu près ce qu'on imagine comme hausse de température assez vite. Et personne ne se plaint aujourd'hui qu'on ait gagné 5 à 6 degrés.
Justement, je ne crois pas qu'on pourra atteindre 5 à 6 degrés. Enfin, si on fait ça, c'est des calculs qui sont faits par certains. Si on regarde les réserves fossiles prouvées, en tout cas, on ne devrait pas dépasser entre 2 ou 3 degrés. Alors peut-être on va dépasser ce fameux seuil des 2 degrés, mais peut-être pas 5 ou 6 degrés. C'est à voir, hein, mais si on fait le calcul avec les données du GIEC et tout ça. Donc la question, c'est, est-ce qu'on va en extraire beaucoup plus? Certains pensent qu'on va... Mais après, on pourra ne pas le faire. Hein. Le problème, c'est si on le fait pas, on le remplace par quoi? Donc c'est un peu la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on peut garder nos civilisations industrielles avec juste du solaire, de...
Alors, de quelle énergie on va vivre demain, Gilles-Henri?
C'est un peu le problème. C'est assez clair. La seule énergie dont on est sûr de toujours disposer, c'est l'énergie solaire. Donc ça, c'est simple.
En même temps, c'est la seule qui n'est pas renouvelable. Là, je tricote un peu, mais à l'échelle de temps, l'énergie solaire, c'est pas une énergie renouvelable.
À 5 milliards d'années, elle n'est pas.
On est bien d'accord.
Je pense qu'on a même de quoi.
Alors que le pétrole est une énergie renouvelable. Ça prend un peu de temps, mais on peut le renouveler.
Oui, tant qu'il y a du soleil.
C'est assez drôle d'entendre des qualificatifs sur les énergies qui sont le contraire de ce qu'ils sont pour un astrophysicien. Les échelles de temps de l'astrophysique ne sont pas celles de l'humanité. Voilà.
Mais en fait, le pétrole est de l'énergie solaire stockée en conserve. Simplement, c'est de l'énergie qui s'est accumulée pendant des centaines de millions d'années, qui est restée tranquillement sous le sol sans que personne n'y touche.
Voilà.
Et nous, on est en train de le brûler en quelques siècles. Donc en fait, on est en train de brûler à toute vitesse un trésor énergétique que la nature a mis 100 millions d'années à accumuler.
Mais et en plus, on en retrouve tout le temps. On va l'exploiter en mer, etc.
Oui,
est-ce qu'on a une idée de ce qui peut rester? Comment on peut savoir ça?
On en trouve moins que ce qu'on consomme. Beaucoup moins que ce qu'on consomme.
Ah, ouais. Même si on en trouve un petit peu à des endroits insolites,
ça va devenir de plus en plus compliqué.
Voilà,
ça ne suffit pas pour compenser. Et en plus, c'est aussi un problème de coût. Ça coûtera beaucoup plus cher. Mais c'est le même problème que la transition énergétique. Oui, on peut faire du solaire. Oui, on peut faire de l'hydrogène. Techniquement, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. On sait faire.
Alors,
qu'est-ce que ça coûte?
Bah oui, qu'est-ce que ça coûte? Et puis l'hydrogène, il faut de l'eau.
Oui, mais ça, c'est...
L'eau, c'est quand même... C'est un sérieux problème aujourd'hui. Il n'y a pas que l'énergie qui est un problème.
L'eau douce. Oui. Mais l'eau de mer, ça va. On a ce qu'il faut dans la mer. Le problème de l'eau, c'est surtout le problème de l'eau potable.
Donc on va rebaisser le niveau des océans en prenant l'eau
alors, non,
salée.
Pas du tout, parce que si on fait de l'hydrogène, après on l'utilise en le brûlant. Et en fait, en brûlant, il redonne l'eau.
On reforme de l'eau.
Donc c'est un cycle. Et donc ça serait pas trop. C'est pas un problème fondamental. On peut le faire. Le gros problème, c'est combien ça va nous coûter. Et si ça coûte trop cher, on va payer. Hein.
Oui.
Ça sera du luxe.
Ça viendra du luxe. Et donc vous faites un lien direct entre les réserves énergétiques et le climat. Et c'est un lien de complémentarité ou un lien de contradiction?
Non, c'est plutôt un lien, c'est plutôt antinomique, puisque plus on a de réserves fossiles, moins on a de problèmes de pétrole et tout, mais plus le climat va se réchauffer. Et inversement, moins on en a, plus le problème va arriver vite, mais moins le climat va se réchauffer. Donc on est un peu entre Charybde et Scylla, comme dans la mythologie. On est entre deux écueils et personne ne sait très bien où le chemin va se terminer. Quoi.
Qu'est-ce que vous pensez de cette BD archi-vendue, Le Monde sans fin, Miracle énergétique et dérive climatique? Est-ce que vous la conseillez, la BD et la posture très nucléarisée de Jean Covici?
Alors, j'aime pas trop être interrogé sur le nucléaire parce que...
Oui, mais bon...
Je sais qu'effectivement, Jean Covici est très, très pro-nucléaire. Moi, je ne suis pas contre le nucléaire. En plus, on a un master dans notre université autour de l'énergie nucléaire.
Oui, bon, avançons.
Je pense que le nucléaire a une utilité. Mais en même temps, je pense que ça ne résoudra pas le problème de l'humanité. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez non plus, même il n'y a pas assez d'uranium non plus pour remplacer les ressources fossiles. Donc même si on fait du nucléaire à fond, alors on pourrait faire de la surgénération. Effectivement, c'est ce qu'on nous vend comme espoir. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun programme de surgénérateur qui a encore vraiment marché dans le monde. Et que je vois mal comment installer des surgénérateurs partout en Afrique, en Océanie.
Oui,
c'est des choses qui sont un peu dangereuses quand même.
Du succès de cette BD, parce qu'elle a quand même été archi-vendue, archi-lue. Vous qui regardez ça avec un œil d'expert.
Oui. C'est toujours intéressant, je trouve, de vulgariser. Après, c'est des choses sur lesquelles on fantasme... Enfin,
Allez, lâchez, souvent des fantasmes. Vous la conseillez ou...
Moi, je conseille toujours de lire, c'est toujours intéressant, mais de garder un sens critique. Voilà.
De lire et de chanter. Gilles Henry, j'ai entendu dire que vous chantiez également. Alors, vous aurez sûrement à commenter la coda impromptue de Stocchetti, qui est une chronique musicale baroque et astronomique.
La coda impromptue d'André Stocchetti.
Chers auditeurs amoureux de la science, après de tels exposés, je vais commencer par citer Einstein, qui, très bon violoniste, disait « La théorie de la relativité m'est venue par intuition, et la musique est le moteur de cette intuition ». Là, nous sommes accompagnés par la musique de Gustav Holst, qui a dédié une symphonie en 7 mouvements à 7 planètes du système solaire. Parce qu'en effet, la musique et l'astronomie partagent une longue histoire commune. Quand on sait que l'on doit la découverte d'Uranus à un violoniste célèbre au XVIIIe siècle, William Herschel, qui avait construit un télescope de 12 mètres de long dans son jardin. Et là, pourquoi écoute-t-on du Queen ? Mais parce que ce morceau écrit à la gloire des missions Apollo a été composé par Brian May, guitariste du groupe Queen, diplômé d'astrophysique et qui d'ailleurs a écrit une thèse volumineuse sur la vitesse radiale dans le nuage de poussière zodiacale. Tandis que le physicien et musicien Kepler avait, 400 ans plus tôt, publié une harmonie du monde, démontrant que l'alignement de certaines planètes pouvait être comparé à des intervalles musicaux. Ah oui, astronomie et musique, c'est une longue histoire d'amour. Alors bien sûr, restent les trous noirs. Eh bien moi je vous le dis, la musique en est pourvue. Je le teste tous les jours dans l'accélérateur de particules musicales que j'ai conçu dans mon garage. Le temps y est aspiré d'une façon phénoménale. Une heure devient 10 minutes, 10 minutes deviennent 20 secondes. Et la bêtise humaine, ah la bêtise humaine, eh bien elle y est aspirée comme par magie pour ne laisser voir que les rayonnements d'intelligence et de concorde à très haute énergie et à une vitesse superluminique qui éclaire notre avenir d'une toute petite lumière d'espérance. Alors oui, c'est le moment de livrer une sérieuse hypothèse à la science. Et pourquoi pas à notre éminent invité d'aujourd'hui. Les trous noirs qui engloutissent tous les objets à leur portée, ne seraient-ils pas aussi des aspirateurs de bêtises, les épongeurs inlassables de la sottise infinie des humains? Et c'est pourquoi, cher auditeur, je conclurai en citant de nouveau Einstein, qui dit « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude. »
Et les chercheurs, vous en avez la certitude ou...
Malheureusement, Non, alors ça, sur l'univers, on n'a aucune certitude.
Avant de conclure cette émission, une dernière réflexion peut-être, Gilles Henry, justement, sur le sujet dont évoque André Stocchetti, comment se défaire des complotistes et tout simplement de certaines croyances?
C'est très compliqué.
Et dans les deux sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est-à-dire l'astrophysique sur les trous noirs, les multivers, etc., et puis aussi sur l'énergie, les ressources, enfin dans tous les domaines.
C'est très compliqué, c'est un combat sans fin. J'ai essayé de discuter. Alors, des terraplatistes, j'en ai pas vraiment trouvé. Je me demande si en fait c'est pas des gros plaisantins qui s'amusent à...
Parce mais est-ce que les scientifiques se posent cette question?
Les créationnistes, ça m'est arrivé, et c'est très compliqué de briser des...
Vous en parlez entre collègues? Comment essayer de faire progresser certaines idées scientifiques plus rationnelles, essayer de se débarrasser de tout ça?
Honnêtement, on n'y perd pas trop de temps. bon, parfois on rompt quelques lances avec des astrologues, voilà, parce que ça nous énerve un peu, mais on se dit que de toute façon, s'il y a des gens que ça amuse...
C'est un fléau pour vous ou c'est une nécessité pour l'humain de...
Pas dans notre pratique scientifique, parce que dans notre pratique scientifique, on est entre gens rationnels et voilà, on n'est pas... Après, pour la société, oui, ça peut être quand même un problème. Enfin, pour le Covid, oui, ça peut poser des problèmes.
Allez, on va voir de quoi se nourrit culturellement, pour finir cette émission, Gilles Henry, un astrophysicien. Le dernier film que vous avez vu au cinéma ou chez vous? Juste un titre, on ne va pas le développer ou le défendre. Hein.
Oppenheimer.
Là. Oppenheimer. Ah, on reste quand même.
Ben, on reste dans la science. Mais
dernière
pas
pièce
que
de théâtre.
Alors la dernière, c'était la saison dernière à la MC2 à Grenoble. J'ai un petit doute. Je pense que c'est C'était une pièce de...
Alors, un dernier livre, ouais, un
non,
roman...
Mais, non, mais je vais
oui, ça va revenir.
Ça va revenir, c'était Don Juan, voilà.
Don Juan. Un dernier livre, un roman...
Non, alors c'est un essai qui m'a beaucoup plu, La Horde, sur les Mongols. La Horde d'or, c'est-à-dire l'Empire mongol qui a existé au Moyen-Âge. Et c'est assez fascinant, on en parle très peu, on le connaît très peu. Ça a été vraiment un empire qui a fait le lien entre l'Asie et l'Europe et qui a eu une influence énorme, en fait. Y compris sur la politique actuelle,
un titre parce que sans commenter, l'Ukraine. Mais il commente quand même. Merci beaucoup, Gilles Henry.
Merci beaucoup.
D'avoir abordé tous ces sujets, on pourrait y passer des heures. Et la prochaine fois, de quoi va-t-on parler dans la Quadrature du Cercle ? Eh bien, on va s'intéresser au dernier livre de la journaliste scientifique Lise Barnéou, intitulé « Les cellules buissonnières ». Il semble que nos cellules ont parfois des parcours surprenants.
Maintenant, c'est fini.
Au revoir.
C'était La Quadrature du Cercle, l'infusion scientifique de Radio Méga, une émission proposée et animée par Marc Bionomo.
Et merci à Hélène Blasi pour les musiques de son album Natural Sciences, une proposition pétillante et très appréciée d'Delphine Delaunay. Merci à Anna Buffo et ses 11 ans pour sa belle petite voix de jingle, à Bastien Hénard de Radio Méga pour la technique infaillible, et immense merci évidemment aux chroniqueurs de cette émission.